Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Chasser les papillons noirs, c'est le titre étrange d'un livre témoignage qui est aussi le récit de toute une vie. La vie tragique et pourtant finalement heureuse et accomplie d'une jeune fille qui, après avoir réussi à s'évader du Veldiv en juillet 42 avec sa mère, a été déportée à Birkenau en 1945. Ce livre dit la violence et l'inhumanité de la déportation. Il dit la cruauté arbitraire des discriminations faites aux Juifs et dit aussi la dureté de la vie avant-guerre dans les quartiers populaires. Mais il dit aussi la force, l'importance et la chance de ceux qui ont été aimés de leurs parents et qui ont été abreuvés de culture. Et si ce livre dit aussi la bassesse, la cruauté et la lâcheté de certains, il dit la solidarité, la générosité et le courage des autres devant l'adversité. À l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv, donc du 16 juillet 42, nous recevons donc l'auteur de ce livre, Sarah Lichtenstein-Montard. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce titre donc étrange, comme je disais au début de l'émission ?
C'est pas un titre étrange. En fait, c'est le refrain. C'est une partie du refrain d'une chanson que chantait Edith Piaf. Et c'est une chanson qui a été... je ne savais même pas le titre de la chanson. Ça s'appelle « Le Discusé ». Je l'ai su il y a quelques années. Ça s'appelle « Le Discusé ». Et le refrain, nous chantions ce refrain là-bas. Et ça disait « Tant qu'il y a de la vie ». Vous ne voulez pas que je vous le chante quand même ?
Comme vous voulez.
Hein, je peux le chanter.
Allez-y.
Aussi. Alors, par exemple, ça commençait comme ça. « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vos désirs, vos rêves seront exaucés un soir avant que votre vie s'achève. Le bonheur viendra vous voir. Il faut l'attendre sans trêve. Chassez les papillons noirs. » Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est pour ça que j'ai voulu ce titre-là, parce que nous le chantions là-bas, parce qu'on ne pouvait pas vivre constamment sous pression, évidemment. Il y avait des spectacles, il y avait des chants, et il y avait cette chanson-là qui a été composée par Michel Aimer, Paroles et musique Michel Aimer, en 1943, pour Edith Piaf.
Oui, vous racontez effectivement des scènes surréalistes de spectacles que vous organisiez entre détenus pour vous changer les idées et qui sont à la fois des scènes tragiques et des scènes comiques
à la fois.
Comiques
quelquefois, non, c'était pas pour nous chanter. Nous chantions entre nous, mais les capots, les chefs de bloc, enfin tous ces gens qui avaient droit de vie et de mort sur nous, en fait, aimaient beaucoup qu'on leur fasse des spectacles. D'ailleurs, dans le camp de Auschwitz-Homme, où j'ai été envoyée après ma séparation avec ma mère, il y avait un spectacle, c'était au moment de Noël, ils avaient fait faire un spectacle par des acteurs juifs, d'ailleurs, et qui jouaient des rôles de juifs, justement, tels qu'on les représentait, caricaturaux et tout, enfin, qui faisaient ça parce qu'il fallait bien qu'ils survivent aussi. Et donc, c'était ces gens-là qui aimaient beaucoup nos spectacles.
Alors, votre livre, Sarah Lichtenstein-Montard, commence en 1954, avec la naissance de votre fille. Et on a la sensation que ce moment est comme une seconde naissance. Et vous racontez comment vous avez choisi le prénom de votre fille à l'époque.
Oui. Alors, effectivement, j'avais une camarade, puisque je le raconte d'ailleurs dans le premier chapitre, qui s'adresse à ma fille, que j'ai appelée Claire, parce qu'à Drancy, j'ai trouvé une camarade d'école. Nous étions à ce qu'on appelle le CP et le CE1. Ensemble, rue de la Marne, dans le 20e arrondissement. Et je l'ai reconnue tout de suite, évidemment. Donc, je l'avais vue pendant 2 ans. Elle, je l'ai reconnue. Elle était très, très belle, très marquée, une grande fille brune, avec des yeux noirs, magnifiques. Et on est devenus tout de suite amis à Drancy. Et on est restés ensemble quelques mois. Ensuite, dans le camp, elle a été transférée ailleurs. Je l'ai retrouvée à Bergen-Belsen, après la marche de la mort. Moi, j'ai fait la marche de la mort, où j'ai retrouvé ma mère, dont j'étais séparée. Et puis, elle, je l'ai retrouvée à Bergen-Belsen, très affaiblie, très amaigrie. Mais enfin, confiante quand même en l'avenir. Et puis, j'ai appris, en revenant, qu'elle avait été transportée encore dans un autre camp, à Dora, et qu'elle était morte là-bas 9 jours après la libération. Alors, quand moi, j'ai été libérée, quand nous avons été libérés à Bergen-Belsen, je me suis dit, si un jour je me marie et que j'ai une fille, je l'appellerai Claire. Et c'est arrivé, j'ai eu une fille comme premier enfant, et je l'ai appelée Claire, à la mémoire de cette Claire.
Alors, tout votre livre est comme ça, Sarah Nichaine-Montard. Il est étonnant, il circule entre votre vie après les camps et le lien que vous tissez entre cette vie d'avant, cette vie d'après, et comme si tout, finalement, était lié à cette expérience.
Eh bien, oui, c'est-à-dire que j'ai voulu montrer à la fois... Alors, la Shoah, ça, c'était le plus important, ce qui est arrivé aux Juifs pendant la guerre, mais l'avant-guerre également, parce que c'était toute une préparation. Je raconte divers épisodes, justement, de 1937, où nous sommes partis en Pologne parce que mon grand-père était mort. Et une sœur de ma mère était à Paris, déjà. Et avec cette sœur, ma mère et moi, j'avais à l'époque 9 ans, oui, c'est ça. Non, même pas, en 37. Si, j'avais 9 ans. On a pris le train pour aller voir ma grand-mère. Et une des sœurs de ma mère, une des sœurs qui était partie en Palestine à l'époque, est venue avec sa petite fille de 2 ans et a emmené ma grand-mère en Palestine, ce qui fait que ma grand-mère a survécu au massacre. Et ce qui était important pour moi, c'était de voir, quand on s'est arrêté, je raconte cet épisode-là, à Berlin, on est resté très très longtemps en gare, et on était au-dessus, on n'était pas dans la gare même, on était au-dessus d'un viaduc, le train était long, la queue du train était était sur un viaduc qui surplombait une place circulaire. Et de chaque côté, il y avait une belle pelouse bien tondue, et sur chaque pelouse, un avion, un chasseur, avec la croix gammée sur chaque aile. Et ça m'avait impressionné, mais c'était terrible, parce qu'on entendait déjà, justement, depuis qu'Hitler était au pouvoir, on entendait tout ce qui se passait pour les Juifs d'Allemagne. On ne voulait pas y croire, d'ailleurs. On ne croyait pas, on croyait que c'était peut-être un petit peu exagéré, et malheureusement, ce n'était pas exagéré. Et je sentais ça comme petite fille. J'ai toujours ressenti, toute ma vie tourne effectivement autour de cet antisémitisme. On sait à quoi il a mené. Celui d'Hitler, on sait à quoi il a mené.
Oui, d'ailleurs, vous arrivez très vite dans votre livre à votre arrivée à Birkenau, la façon dont vous faites ce voyage, ce long voyage.
C'était terrible.
Très difficile, voilà. Et puis, vous êtes rasé, tatoué, et voilà, vous décrivez cette scène qui est d'ailleurs une scène qui revient dans les récits de déportés, cette scène de l'arrivée, de la transformation, finalement.
Oui, justement. C'est, effectivement, on m'a dit, il y a pas mal d'éditeurs, enfin, quelques éditeurs ont refusé le livre parce que ce n'était pas un scoop. On a déjà raconté toutes ces histoires-là, mais chacun le raconte pas à sa façon, mais de la manière dont il l'a vécu. Évidemment que c'est différent. Et là, et chacun, quand même les éditeurs qui ont refusé, parce que c'était pas un scoop, m'ont dit, mais quand même, votre structure est très originale. Voilà. Et j'ai voulu le faire comme ça. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et j'ai raconté à travers mes enfants, à travers mes parents, et puis mon mari également, ensuite.
Alors peut-être vous pouvez nous raconter, Sarah Lichtenstein-Montard, puisque cette émission vient commémorer la rafle du Vel'Div, la manière dont vous avez été arrêtée et puis surtout la manière incroyable dont vous avez réussi à vous échapper, votre mère et vous.
Oui, alors je raconte, la veille, les classes se terminaient à l'époque le 15 juillet, les cours étaient terminés, on reprenait le 1er octobre suivant. C'était vacances du 15 juillet au 1er octobre. Et là, le 15 juillet, le dernier jour de classe, une camarade juive me dit « Écoute, moi, mes parents connaissent un commissaire de police qui les a avertis qu'il se préparait une arrestation massive de femmes, d'enfants, de vieillards pour ces jours-ci. Et on quitte notre appartement. Il te ferait bien de dire à ta mère qu'il faut quitter l'appartement également. » Et je ne sais pas si vous avez vu le film La Rafle. Et ben c'est pour ça, c'est bien retransmis. On peut critiquer certaines choses, mais c'est très bien retransmis. Les gens ne voulaient pas y croire, justement. Et quand je suis rentrée le soir, ma mère me dit « C'est impossible, arrêter des femmes et des enfants en France ». On était venu en France parce que c'était le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution. Jamais on n'aurait pu penser qu'en France, on arrêterait des femmes et des enfants et des vieillards, puisque les hommes étaient déjà cachés. Certains avaient déjà été arrêtés, comme mon père en 1941, était à Pithiviers. Lui, il s'était évadé de Pithiviers. Donc, en fait, on est une famille d'évadeurs. Et ma mère m'a dit non, c'est pas possible, mais elle se méfiait quand même, comme elle avait traversé en Pologne et en Russie surtout, puisque quand elle est née, elle et mon père, quand ils sont nés, c'était la Russie. Et moi, je suis née là-bas aussi, mais c'était déjà la Pologne. Et elle dit, toi, tu vas te coucher. J'avais 14 ans à l'époque. Et Et moi, je vais rester assis sur une chaise toute la nuit. Et si on frappe à la porte, je ne répondrai pas. Et on se sauvera par la fenêtre de la cuisine, parce que nous, nous habitions à un rez-de-chaussée, au fond d'une cour. Et il y avait la fenêtre de la cuisine donnait sur une petite cour, une autre petite cour. Et là, on sautera par la fenêtre de la cuisine et on demandera du secours. C'est tout. On ne savait pas où aller, de toute façon. Pourquoi se sauver? Quand on n'avait pas d'argent, on était très pauvres. Ce quartier était pauvre, là où nous habitions, et nous étions très pauvres. Et puis mon père n'était pas là, évidemment, puisqu'il se cachait déjà. Il avait été évadé de Pithiviers, donc il se cachait à Paris, d'ailleurs, dans le quartier. Et elle s'est endormie, malheureusement, elle est restée assise sur une chaise. Elle s'est endormie et à 6 heures du matin, on a cogné dans la porte et elle s'est réveillée en sursaut. Qu'est-ce que c'est ? Police, ouvrez. Alors sont entrés un inspecteur de police, en imperméable d'ailleurs, et chapeau. Un chapeau mou et un imperméable en plein mois de juillet, quand même. Je dis, comme dans les films américains, les policiers américains d'avant-guerre qu'on voyait. Et puis un sergent de ville, enfin ce qu'on appelait un gardien de la paix, d'ailleurs en uniforme. Et il dit à ma mère, vous appelez bien Madame Lichtenstein ? Elle dit oui. Et la petite jeune fille, là, ben, c'est ma fille. Alors il regarde sur sa liste, il dit, mais elle n'est pas inscrite sur ma liste, et il m'inscrit. Et ma mère lui dit, mais pourquoi vous l'avez inscrite ? Laissez-la, c'est une enfant. C'est que vous ne l'avez pas trouvée, c'est tout. Elle le suppliait presque à genoux. Et il lui dit, madame, si vous faites du scandale, j'appelle police secours. Alors moi, j'étais déjà terrifiée. L'idée de police secours, qui était ce car qu'on voyait passer avec des voleurs, des criminels. Enfin, vraiment, ça me faisait tellement peur déjà. Et il n'y a rien à faire. On a préparé une valise. Il ne nous a pas dit de prendre de nourriture, simplement des vêtements, quelques vêtements d'hiver également. Et puis nos objets les plus précieux. Et puis on est sortis dans la cour d'abord, où on était 7 en tout dans l'immeuble. C'était un maigre butin. Mais quand on est arrivé dans la rue, ça a été pour moi un spectacle terrible, parce que de tous les coins de rue arrivaient des familles entières. Alors les gens, les parents complètement hagards, désorientés, les enfants avec les petits-enfants au bout des bras, au bout de leurs bras, pleurant, ils étaient mal réveillés, et tout ça encadré de police, comme des criminels. Et là, j'ai senti vraiment l'injustice, cette terrible injustice, cette horreur. Pour moi, les grandes personnes avaient toujours raison. Tout ce qu'ils faisaient, c'était bien. Tout ce qu'ils disaient, c'était juste. Et c'est tout, j'étais une enfant. Et ce jour-là, vraiment, je crois que mon enfance a basculé ce jour-là. Et on nous a traînés d'abord dans un garage, debout de la rue des... On habitait rue des Pyrénées, donc au coin de la rue de Belleville et de la rue des Pyrénées. Et puis, on nous a fourrés dans des autobus de ligne. L'autobus, c'était des lettres, c'était pas des chiffres à l'époque. Nous, c'était le Q, notre autobus. Je crois que c'était le 96 actuel, Porte des Lilas, Gare Montparnasse, oui, c'est ça. Et on descendait la rue de Belleville, et là, je vois une camarade de classe que j'avais quittée la veille, qui regarde passer ces autobus tristement. Mais elle ne m'a pas vue, j'étais coincée entre deux grandes personnes, parce qu'ils nous avaient fait mettre les bagages, les valises sur la plateforme, c'est des autobus à plateforme naturellement, et à gazogène, ils marchaient au gazogène. On nous avait entassés à l'intérieur, donc j'étais coincée, elle ne m'a pas vue. Et là, à nouveau, j'ai ressenti cette terrible injustice. Elle est là, elle est triste, d'accord, de voir passer cet autobus rempli de gens, parce que les gens savaient ce qui s'était passé, les gens des immeubles environnants avaient vu arrêter leurs voisins. Mais elle est libre, elle est là au soleil, elle est libre, et moi je suis enfermée, je suis prisonnière, uniquement du fait que je suis née juive, c'est tout. Et bon, je ne pensais pas aux autres, les autres c'était pareil. Et puis on a traversé tout Paris, et je dis que ce jour-là, je n'ai vu aucun soldat allemand dans les rues. Ils avaient peut-être reçu un mot d'ordre de ne pas sortir de leur caserne ou de leur pension de famille, enfin là où ils se trouvaient. En tout cas, pas vu un seul Allemand. On est arrivé comme ça, rue Nélaton, qui était parallèle au quai. À cette époque-là, maintenant c'est le quai. Comment ça s'appelle maintenant ? Le quai. Ah, je ne sais plus le nom du quai. Enfin, c'était le quai de Javel à l'époque. Et puis l'avenue de Grenelle, le boulevard de Grenelle. Et Rue Nélaton, donc, parallèle, c'était ce grand bâtiment qui était un vélodrome, qui était un lieu de réjouissance. Avant, il y avait les courses cyclistes, les séjours de Paris qui passaient là. Et puis, il y avait des artistes qui produisaient un peu comme notre Bercy actuel, enfin, le parc omnisports de Bercy. Et puis, finalement, on nous a déversé devant cette porte. Les autobus arrivaient sans arrêt, déversaient leur cargaison. Ma mère a essayé de se sauver à un moment, mais avec la valise, et moi et la valise. Et un agent nous a dit, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, ma fille n'a pas mangé, n'a pas déjeuné, je l'emmène dans un café qui existe toujours, d'ailleurs, rue Nélaton. Et il dit, bon, bah, je vais vous suivre et je vous attends. Et il nous a attendu effectivement à la porte du café, et puis il nous a poussé à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'était un brouhaha énorme. Il paraît qu'il y avait déjà à 9h du matin, il devait être vers 9h du matin, il y avait déjà 5000 personnes dans ce Vélib. Là, on n'emmenait que les familles avec enfants. Les célibataires ou les couples sans enfants partaient directement à Drancy. Il y avait ce brouhaha, il y avait aussi cette immense verrière peinte en bleu, selon les consignes de la défense passive, qui donnait une lumière glauque, et tous les gens qui étaient là avaient l'air de fantômes verts. J'ai fait longtemps des cauchemars, des petits fantômes verts du Vel'd'Hiv. Et puis on est resté là toute la journée. Alors il y avait quelques toilettes, une dizaine peut-être de toilettes pour les sportifs, mais qui ont tout de suite été bouchés, naturellement. Et alors les petits-enfants faisaient leurs besoins un peu partout, même des adultes faisaient leurs besoins également. C'était une puanteur épouvantable. Nous, on avait rien à boire ni à manger, nous en tout cas. Des infirmières circulaient, quelques infirmières de la Croix-Rouge avec du lait pour les petits-enfants. Et puis on avait demandé aux policiers, à un moment ils dressaient des petits lits de camp, et il y avait deux femmes qui s'étaient retrouvées, deux amies, et qui se racontaient comment elles avaient été arrêtées, ce qui s'était passé dans leurs immeubles. Quelqu'un avait tiré sur une femme blessée, et il l'avait blessée à la jambe. Une mère s'était jetée de la fenêtre du troisième étage avec ses enfants, avec ses deux enfants. Enfin, des choses horribles. Et puis, elle pleurait, elle disait, mais c'est là, sur les lits de camp, qu'on va dormir. Alors, les policiers, alors je leur dis, mais il n'y aura jamais assez de lits pour tout le monde, c'est vrai, il y avait un monde fou. Et ils disent, mais ces lits, c'est pour nous, vous allez dormir par terre. Et je suppose qu'après, effectivement, ils ont dormi sur les gradins. Et on nous avait dit, quand on leur demandait, qu'est-ce qu'on va faire de nous? Alors, ils disaient, bah, on va vous envoyer travailler en Allemagne. Ma mère dit, bon, bah, les enfants iront à l'école pendant que les parents travailleront, et puis ils se retrouveront le soir. Et puis, tout d'un coup, vers 5h de l'après-midi, bah oui, 4h30, 5h, par là, on a vu arriver des chaises de handicapés, des chaises roulantes, des fauteuils roulants, des fauteuils de handicapés, avec dedans des amputés, des paralysés, et puis des civières avec des moribonds. On voyait que les gens allaient mourir. Ma mère dit, mais là, on nous a menti, parce qu'ils ne peuvent pas employer ces gens-là à travailler. On nous a menti, c'est qu'ils se préparent quelque chose de très mauvais, et il faut qu'on se sauve. Et elle dit, tu te sauves la première, et quand je t'aurai vu partie, je me sauverai après. Donc elle m'a donné ma carte d'alimentation, parce que ça, c'était vital. C'était comme la carte vitale là, actuelle, mais encore en plus vital, puisque c'était pour manger. Et 100 francs, qui était aussi une grosse somme. Et elle me dit de me sauver. Moi, j'étais quand même à 14 ans, j'étais très timide. Alors j'essayais de me glisser derrière des policiers, mais on me voyait, on me repoussait à l'intérieur. Et il arrivait toujours des cargaisons de juifs dans les autobus. Et j'ai réussi à me glisser quand même derrière un policier et à marcher à reculons vers un groupe de enfin des badauds, peut-être des gens qui étaient venus voir s'il n'y avait pas les amis arrêtés ou quoi. Et alors tous les gens des immeubles de la rue étaient aux fenêtres, évidemment, un spectacle comme ça. Et je marchais à reculons, comme si je m'avançais d'entre ces gens-là. Et un policier me dit, quand j'étais à peu près à 1m2, il me dit, qu'est-ce que vous voulez, vous? Et je n'ai rien trouvé d'autre à lui dire que je ne suis pas juif, je suis venu voir quelqu'un. Et il me dit, foutez-moi le camp, vous reviendrez demain. Et je suis partie avec mon manteau plié sur le bras. Et je voulais courir, mais je me suis empêchée de courir. Je me dis, mais on va me rappeler, on va peut-être me tirer dessus, puisque j'avais entendu parler de gens sur lesquels on tirait. On va me tirer dessus. Et donc je me suis forcée à marcher tout lentement. Et au bout de chaque rue, alors j'ai pris une rue perpendiculaire à la rue Nélaton et qui donnait donc sur le quai. Et qui s'appelle maintenant quai de Grenelle, ça y est, ça me revient maintenant. Et c'était le quai de Javel. Et au bout de chaque rue, il y avait, de ces deux rues-là, il y avait des agents qui vous demandaient des justificatifs de domicile aussi aux gens qui en sortaient, enfin pourquoi ils étaient là. Et on ne m'a rien demandé. Et je me suis demandé, mais pas longtemps, je lui ai dit, est-ce qu'il m'a cru, le policier qui m'a dit, foutez-moi le camp. Et j'ai réalisé presque tout de suite qu'il ne m'avait pas cru. Parce qu'en plein été, l'étoile qu'on avait, on avait dû acheter 3 étoiles. Pour mettre coudre solidement sur 3 vêtements différents. Alors sur ma robe d'été, je n'avais pas d'étoile, mais sur le manteau qui était plié sur mon bras, j'avais mon étoile, que j'ai toujours d'ailleurs, et qui figure dans le livre, qui est photographiée dans le livre. Et je me dis, il n'a pas pu me croire, il voit une fille avec une robe d'été avec un manteau sur le bras, il s'est bien douté que je sortais du Veldiv. Et les deux agents du bout, c'est pareil, il n'y avait pas de talkie-walkie, il n'y avait rien du tout. Ils n'avaient pas communiqué, mais ces 3 agents-là de police, ces agents de police, m'ont sauvé la vie, en somme.
Alors, vous avez donc échappé à cette rafle du Veldiv, mais vous n'avez pas, malheureusement, échappé à la déportation. Et donc, vous racontez dans ce livre cette déportation à Birkenau, et vous racontez surtout comment vous avez survécu, votre mère et vous, en vous soutenant l'une l'autre.
Mais oui. Oui, effectivement. Alors, on a été arrêtés 2 ans plus tard sur dénonciation. J'ai vu à la préfecture de police la lettre de dénonciation. Et comment nous avons survécu l'une par l'autre, parce que, par exemple, ma mère me donnait un peu de sa ration, elle voulait me nourrir, mais quand elle a vu qu'elle s'affaiblissait, elle m'a dit, écoute, ne pense pas que je suis une mauvaise mère, mais il faut que je vive, pour que tu vives toi, il faut que je vive, faut que je prenne soin de toi. Et il faut donc que je survive et que je mange ma ration. Je ne donnerai plus de ma ration, d'une part. Et puis, d'autre part, il y avait ce mot d'ordre dans le camp, c'était « organiser ». Alors, « organiser », ça voulait dire, c'était ou soit voler les choses dont on avait besoin, une brosse à dents, par exemple, une gamelle, c'était vraiment indispensable, un quart pour boire également. Tout ça, on volait, ou alors... On échangeait, on faisait du troc également. Alors, il fallait donner de la nourriture pour avoir un gilet. Par exemple, quand l'automne arrivait, c'était épouvantable. On n'était pas couverte, presque pas couverte. Et même pour avoir un petit gilet, il fallait donner 3 jours de ration de pain. Et ça, c'était énorme. Mais sur 2 rations, comme on avait 2 rations, on pouvait vivre sur 1 ration pendant 3 jours. On se prévait un petit peu plus. C'est comme ça qu'on a pu survivre. Et surtout, elle savait toujours... elle était toujours lucide pour savoir ce qu'il fallait faire à l'instant où il fallait le faire. Et sans elle, moi, je me débrouillais très mal. Quand on a été séparés, d'ailleurs, je mourais de faim. Je l'ai rencontrée 2 fois pendant notre séparation. Et la première fois, je lui ai dit que je mourais de faim. Et tous les jours, elle organisait, justement, elle volait des pommes de terre. Et elle les faisait cuire. On avait un poêle à chaque extrémité du baraquement. Du bloc, ça s'appelait le bloc, évidemment, baraquement. Elle faisait cuire ses pommes de terre, elle les écrasait, elle les mettait dans un linge autour de la poitrine, et comme elle ne me rencontrait plus, elle les mangeait le soir, elle rentrait, elle mangeait les pommes de terre. Et un mois après, elle m'a rencontrée une deuxième fois, et elle m'a donné ses pommes de terre qui étaient encore tièdes d'avoir été dans ce linge sur sa poitrine, et pour moi, ça a été vraiment une merveille. Et je le ressens encore maintenant, ce miracle-là, c'est un miracle aussi.
Oui, et puis vous racontez aussi, Sarlinghstein Montard, donc ces marches de la mort que vous avez traversées avec votre mère aussi.
Parce que je l'ai retrouvée au moment de la marche de la mort, justement.
Oui, et puis vous avez échappé, grâce à elle aussi, à une épidémie de typhus
Ça, c'est à Bergen-Belsen.
Oui, oui. Alors, ce que vous dites très bien aussi dans ce livre, dans ce témoignage, Sarlinghstein Montard, c'est votre retour, la reconstruction, la reprise de vos études, la rencontre avec votre mari, et puis peu à peu, votre décision de témoigner de raconter, alors d'abord aux élèves, et puis après à tous ceux qui veulent vous entendre, ce qui vous est arrivé.
Oui, absolument. Je continue à raconter. Depuis 1985, je raconte aux élèves des classes, c'était 3e auparavant. Et puis après, ça a été les premières et les terminales. 3e, première et terminale. Et j'ai témoigné devant des secondes également. Et maintenant, c'est seulement les troisièmes et les premières. Oui, parce que je crois que les terminales, certaines classes n'ont plus cette partie de l'histoire à leur programme. Et surtout, je ne voulais pas retourner à Auschwitz, et j'y suis retournée seulement 58 ans après. Et j'accompagne, plus cette année, parce que je ne peux plus marcher, mais sinon j'accompagne des groupes, justement, avec le mémorial de la Shoah, en partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France. J'accompagne des jeunes et des adultes également. À Auschwitz. Et il fallait que je témoigne. C'est ma vocation. C'est mon entière vocation maintenant.
Merci beaucoup, Sarah Lichtenstein-Montard. Donc, je rappelle que votre livre « Chasser les papillons noirs », un très beau livre, est paru aux éditions Le Manuscrit de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dans la collection « Témoignages de la Shoah ». C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation. www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission. www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.